Voilà, mesdames, messieurs, je vous propose de commencer notre séance. Donc pour les Verviétois, vous êtes habitués, pour ceux qui viennent de plus loin mais qui n'ont pas la chance d'être Verviétois, il faudra allumer votre micro lorsque vous voulez prendre la parole, puisque notre séance va être enregistrée vocalement. Donc, on a un technicien de la zone de police qui nous aide, mais la caméra appartient à la ville. Donc, si on veut que ce soit filmé, il faudra encore des accords.
Voilà. On ne peut pas demander au bourgmestre de la ville de Vavie qui nous prête la caméra?
Je ne sais pas, il faudra lui demander. Non, moi, c'était essayer de trouver un équilibre entre, effectivement, les demandes légitimes, je trouve, d'avoir... Et sans donner trop de travail, et puisque la législation n'oblige pas d'avoir un PV qui reprend chaque intervention, et ce n'est pas comme à la ville de Verviers où on a un secrétariat quand même un peu plus fourni, si je puis dire ainsi, pour travailler sur le conseil. Donc le compromis, c'était peut-être de faire un enregistrement sonore. Maintenant, moi, je pensais que le fait de faire sonore demanderait qu'il n'y ait pas de technicien, parce que c'est des heures de travail prestées par la personne en question. Si même sonore, il faut un technicien, ça ne coûtera pas grand-chose de prêter la caméra. Moi, j'essaye de faire l'équilibre entre le besoin de démocratie par rapport à nos séances et les coûts que ça peut engendrer en termes de... Monsieur Schoenbrodt.
Oui, mais juste question, alors, c'est que... Donc, c'est vrai que c'est dommage pour les très belles chemises de nos collègues qu'on ne soit pas filmé. Mais moi, en l'occurrence, c'est déjà une avancée et donc c'est très chouette. Maintenant, effectivement, si c'est au même coup, je suis d'accord que c'est vrai. Mais si c'est enregistré, ça va être quoi le statut de l'enregistrement? Il va être aussi publié quelque part? Comment ça va se passer? Parce que du coup, je ne sais pas s'il va être uploadé sur YouTube, qui est quand même si on les met chaque fois sur les sites de la ville, quand c'est la ville de Verviers, la zone de police, je ne sais pas si on va la mettre sur le site de la zone, mais en général, je pense que les gens regardent plutôt via YouTube. Comment ça va se passer?
L'objectif, c'était de mettre via le site de la zone l'enregistrement, en sachant que YouTube est le vecteur de l'enregistrement, mais la plupart des gens, malheureusement, quand ils sont sur YouTube, ils ne tapent pas Ville de Verviers. C'est dans le sens contraire, ils viennent sur notre site et puis ils sont renvoyés vers le porteur qui est plutôt YouTube. Donc ici, ce sera, en tous les cas, ce soir, ce sera un enregistrement vocal disponible sur notre site et on va évaluer après ça ce qu'il y a moyen de faire. Encore une fois, les moyens de la zone ne sont pas les mêmes qu'à la commune. Le service informatique n'est pas aussi nombreux que dans une commune comme celle de Verviers. Donc voilà, moi je veux d'abord à la fois assurer la transparence de nos travaux, mais également le travail dans notre zone. Mais on peut commencer comme ça aujourd'hui? N'oubliez pas d'allumer votre micro, Monsieur Privot.
Merci, Monsieur le Président. Merci en tout cas d'avoir à tous ceux qui ont permis déjà d'organiser l'enregistrement. C'est clair que c'est une demande qui remonte déjà à mes prédécesseurs écolos de la précédente mandature, donc ça fait des années. Et effectivement, comme il y a quand même un besoin de technicien, je pense que la fois prochaine, avoir la caméra, finalement, c'est juste revisser la caméra qui est là. Donc allons-y, et je pense que ce seront des pas qui seront bien faits. Mais déjà, merci en tout cas d'avoir pu mettre ça en œuvre.
Sur certains termes, je vous propose de commencer notre séance. Je me retourne. On fait d'abord les procès-verbaux, puis on fait l'urgence. Donc il y a les procès-verbaux du Conseil du 10 avril 2025, du 24 avril 2025 et du 22 mai 2025. Y a-t-il des remarques pour ces procès-verbaux?
Pas encore le réflexe, vous voyez, on est drillé. Juste les mêmes remarques que précédemment, donc on s'abstiendra parce que les PV sont assez liminaires et effectivement ne ressortent pas beaucoup des échanges, ne ressortent pas les questions orales. Donc voilà, mais maintenant qu'on a l'enregistrement et bientôt la vidéo, je pense qu'on aura vraiment l'essence des discussions, des échanges que l'on peut avoir à l'avenir. Mais pour ces trois-ci, on s'abstiendra.
La raison a été donnée, on s'abstient aussi.
Merci. Donc j'ai une déclaration d'urgence. C'est un point lié aux différents recours liés aux dotations de Pupinster. Donc je peux peut-être passer la parole à Madame Garot par rapport à cela. Puis on votera d'abord sur l'urgence et puis on votera sur le point en tant que tel.
Non. Donc on va vous demander le on va attendre que M. Delto arrive. Voilà. Donc on a été informé ce matin par le conseil de la zone que la commune de Pupinster a introduit un recours auprès du ministre contre la décision du gouverneur qui a décidé d'approuver la délibération du conseil de Pupinster qui fixe la dotation communale 2025 moyennant une rectification parce que Pupinster avait décidé de minorer sa dotation de 250 000 euros. Le gouverneur donc a approuvé moyennant rectification. La commune de Pupinster a introduit un recours auprès du ministre. Alors, on vous demande quoi ? Le ministre, maintenant, au niveau de la procédure, a 40 jours à dater de la réception du recours, mais on ne sait pas quand le ministre a réceptionné le recours, pour rendre et envoyer sa décision à Pupinster. Si jamais le ministre ne rend pas sa décision dans le délai, la délibération, donc la décision de Pupinster vaudra et la zone devra alors introduire un recours en annulation au Conseil d'État. La zone disposera d'un délai de 60 jours et vu que le prochain Conseil n'est prévu que le 11 ou le 12 septembre, le délai viendra à échéance avant. Donc on vous demande déjà d'accepter de rajouter le point en urgence à la majorité des deux tiers. Et si vous acceptez l'urgence, on vous demandera alors d'autoriser le collège de police, si besoin, à introduire un recours au Conseil d'État contre la décision alors de Pupinster qui a décidé de diminuer la dotation communale 2025 de 250 000 euros.
Contre la décision du ministre éventuellement
ou de la... Non, parce que si le ministre, soit le ministre ne rend pas sa décision dans le délai, là, la décision de Pupinster vaut. Soit le ministre fait droit à Pupinster, et là, la décision alors vaut, et c'est la zone qui doit introduire un recours au Conseil d'État, ou soit alors le ministre fait droit à la zone et envoie sa décision dans le délai, et là, on ne devra rien faire. Mais on vous demande, si besoin, parce qu'on ne va pas, avec les vacances, voilà, on vous demande.
Donc, votre théorie, vu les congés, et c'est que la grande probabilité, c'est qu'il n'y ait pas de réponse du ministre dans le délai. C'est une option.
L'année passée, le ministre a rendu sa décision dans le délai et a fait droit à l'argumentation de la zone. Et c'est la commune de Pupinster qui est allée en recours au Conseil d'État. Et en 2023, le ministre n'a pas transmis sa décision dans le délai. Voilà. Donc, je ne sais pas, cette année...
Juste une toute petite question pour être sûr de complément. Quand vous parlez du ministre, c'est le ministre du SPF intérieur ou c'est le ministre des pouvoirs locaux?
Juste intérieur.
Parce qu'il n'est pas précisé.
Intérieur.
Ok, merci.
Toujours beau, tu es anarchique. Et alors, par contre, pour. Donc, moi, je découvre, hein, on n'était pas au courant de ce point-là. Et, enfin, bon, d'abord, on va voter l'urgence, peut-être que je rentre déjà dans le fond, mais je veux juste savoir, est-ce que la motivation de la zone de Pupinster, de la commune de Pupinster a changé? Et est-ce qu'on l'a? Qu'est-ce qui a été déposé ici?
C'est la même chaque année, donc ils estiment que c'est à nouveau avec la norme KUL, ou ils estiment que la norme KUL ne serait pas applicable, et ils estiment que la zone a suffisamment de moyens, avec les bonis qui sont faits chaque année, et que la zone disposerait de suffisamment de moyens. C'est vraiment la même argumentation chaque année de Pupinster.
Oui, on va voter l'urgence, mais en fait, il n'y a rien de nouveau, hein. On est dans une continuité, alors on peut évidemment regretter les choses, etc. Mais l'attitude de Pupinster est cohérente avec les actions qu'ils ont faites dans le passé, puisque fatalement, si aujourd'hui ils n'introduisaient pas cette action, ben, ce serait un argument en notre faveur pour dire que, dans la première procédure, pour dire ben, regardez, cette année-ci, ils acceptent les choses, donc voilà. Et à contrario, notre acte est logique aussi, puisque si nous n'allons pas jusqu'au bout pour cette dotation-ci de l'idée en disant que nous, on estime qu'on a besoin de cette dotation, bah, même chose ce sera un argument contre nous en disant, bah, regardez, en 2025, par contre, ils ont accepté la diminution de Pepastère. Donc on est dans une logique qu'on peut regretter sur le fond, mais en termes de procédure juridique, on en est là. Et donc, comme a très bien expliqué Mme Garot, les vacances ne se faisons. Il ne faut pas qu'on se fasse piéger par les vacances et l'absence de conseil. Et donc, j'invite vraiment d'abord à voter sur l'urgence, mais après sur le fond, à nous permettre vraiment de continuer l'action. Parce que, encore une fois, si on ne prend pas cette décision-là cette année-ci, ça risque en cascade de venir sur l'ensemble du processus dans lequel on est, ou si on additionne l'ensemble des montants. Je crois qu'on avait fait une présentation il y a quelques semaines ou quelques mois d'ici. Voilà, les enjeux financiers deviennent quand même assez importants, la commune de Pepastère et la zone de police. Donc je propose de voter l'urgence, unanimité sur l'urgence. Merci, ça permet vraiment à la zone de fonctionner, ou au collège de fonctionner. Et puis sur le fond du dossier, M. Schoenbrot.
Mais moi, je vais quand même exprimer le fait que je suis affligé par la mesure qui nous est présentée, parce que, d'une part, moi, si à un moment donné, une commune nous disait « c'est trop cher, la part qu'on doit payer pour la zone de police », je peux vraiment l'entendre. Je ne suis pas d'accord, d'ailleurs, avec la modification budgétaire qui est tout à l'heure, parce que je ne suis pas d'accord avec le budget, parce que je ne suis pas d'accord que le fédéral ne joue pas le jeu et qu'il finance trop peu la zone et que ça retombe aussi sur les communes. Et donc Verviers paye trop, Dizon paye trop, Pepastère paye trop, dans ce sens-là, par rapport au fédéral. Mais je trouve que vraiment, ici, d'une part, mettre à mal dans sa part l'activité de la zone est un problème, mais je trouve que c'est un problème même sur le fond, sur le message. L'argument qui est donné, c'est pas juste de dire le fédéral ne fait pas sa part et du coup on doit payer trop, c'est on paye trop et on devrait payer moins et la zone est en bonne santé. Moi, quand je vois vraiment la surcharge de travail de certains agents, moi je suis effaré quand je vois, parce qu'on a toujours parlé de est-ce qu'on arrivera à atteindre le cadre, mais rien que le cadre tel qu'il a été dessiné dans les années 70, aujourd'hui quand je vois les agents de quartier, le nombre de rues qu'ils ont à faire et qu'en plus de ça ils ont d'autres tâches, les gens qui sont débordés par les activités qui sont proposées dans toutes les communes, c'est vraiment affligeant de venir avec ce genre de propos. Et je trouve vraiment qu'on a des discussions quand c'est les campagnes électorales sur l'importance de la sécurité, l'importance d'avoir une police de proximité, etc. Et puis, juste derrière, on a un comportement comme ça. Je pense que c'est vraiment contradictoire. Je pense que ça n'est pas honnête face à la population de faire croire qu'on est face à une zone qui se porte bien. Dire que c'est trop cher pour les communes, je suis d'accord. On a déjà eu d'ailleurs une opposition de ce conseil de police vers le fédéral pour dire « faites votre part ». Mais sur le reste, c'est vraiment inacceptable. Et donc voilà, moi je trouve qu'en plus, ici, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il y a une petite filouterie d'essayer de passer pendant les vacances et que ça se passe comme ça. Donc, je vous remercie en tout cas d'avoir été attentif à ça et de proposer ce point. Et évidemment, on va le soutenir.
D'autres interventions? Oui, je vous en prie.
Moi, je m'abstiendrai.
Pas de souci. OK.
Oui. Je vous enverrai alors, comme ça vous aurez le dossier, le recours qui a été introduit, comme ça vous aurez tous le dossier et le recours, et la délibération alors qui sera prise pour autoriser le collège. Merci.
Okay. Sur le débat de fond, M. Schoenbrot, finalement les financements au niveau du fédéral, ça sort un peu du cadre du point ici, donc voilà, ça je ne vais pas intervenir, vous connaissez ma position un peu hybride en tant que bourgmestre d'une grande ville et la présence au sein des différents gouvernements. Ça n'aura pas été évident dans les années qui viennent, mais je l'assumerai et j'assumerai la défense des intérêts des Verviétois. Sur la zone, en fait, moi j'ai l'impression que le discours que vous avez, on l'a sur beaucoup de sujets. Il existe très clairement, et j'en ai encore parlé tout à l'heure avec d'autres collègues, j'étais au conseil provincial, on parlait sur le niveau social, au niveau zone de secours, enfin d'autres sujets. C'est effectivement le manque de solidarité parfois dans un arrondissement comme le nôtre par rapport à une commune comme la nôtre de Verviers. Alors moi je défends la zone de manière générale, mais quand on voit par exemple une statistique de notre zone de police, à policiers, et monsieur le chef de corps pourra me corriger si je me trompe, mais à policiers de Verviers va avoir à peu près entre 6 et 7 interventions de plus qu'à policiers de la zone du plateau et de la zone Fagne. Donc effectivement, la charge de travail, objectivement, est plus importante dans notre zone urbaine, pour différentes raisons. Et ça se décline sur plein d'autres aspects, comme j'en ai parlé. Ça se décline sur l'aspect social par rapport au CPS. Ça se décline dans tous les niveaux. Donc je pense qu'il faut, et il faudra encore sans doute faire du chemin, qu'on reconnaisse vraiment... Alors, je n'ai pas encore fait fusion avec Dison et Pepaster. J'ai cru comprendre dans le journal qu'ils étaient moins d'accord. Mais comprendre que les zones urbaines, et plus particulièrement Verviers, si elle veut exercer son rôle de chef-lieu et tous les défis qui sont les siens en termes de sécurité, en termes d'intégration, en termes à tous les niveaux, il faut une solidarité un peu plus importante avec les communes de l'arrondissement. Et c'est tout un système, et ce n'est pas ce soir qu'on va résoudre ça, c'est tout un système. Où est-ce qu'on retrouve le plus d'entreprises sur le territoire de notre arrondissement ? C'est à Thimistère-Clermont, 3000 habitants. Ils ont le profit d'un des plus grands zonings de notre arrondissement, sans les problèmes d'une ville comme la nôtre. Alors, je c'est pas du tout une critique par rapport à Thimistère-Clermont, c'est au niveau spatial, c'est comme ça que ça s'est fait. Moi, j'ai une entreprise familiale, elle était rue Hollène, à Verviers. C'était la catastrophe, les camions venaient, etc. En termes urbains, c'était une catastrophe. Elle est partie dans un zoning, maintenant elle est à Herve. Le produit de l'entreprise, maintenant, sert à Herve. Donc c'est vraiment une question, et j'ai hésité à faire cette intervention par rapport à vous, parce que je sors un peu du sujet, mais on en est là, c'est vraiment la construction à la fois des recettes fiscales et à la fois de la solidarité entre communes qui est défaillant. Et fatalement, quand tout va bien, et c'est vrai que Verviers, on va nous dire, oui, c'est un peu le contraire, quand tout est bien à Verviers, ben, vous aviez les industries lainières, etc. Oui, c'est vrai, quand tout va bien, on ne se rend plus compte de ça. Je pense que c'est la même chose à Dison, et ça a été un peu moins vrai à Pepaster, mais bon, voilà. Mais ici, s'il n'y a pas à un moment donné une prise de conscience qu'une ville, qu'un bassin comme le nôtre doit avoir des moyens qui nous permettent d'assumer ce rôle de chef-lieu et d'assumer, de connaître les problèmes qu'on connaît, je vais prendre un autre exemple, le plan Grand Froid. Dans tous les journaux de Belgique, on a écrit à Verviers, on fait des tirages au sort pour pouvoir dormir la nuit quand il fait froid. Mais si on assumait un peu plus sur l'arrondissement ce rôle, on n'aurait pas fait de tirage au sort. Et moi, je ne demande pas qu'on aille mettre des gens à Stoumont, ça ne sert à rien, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de laverie, il n'y a rien. Mais qu'on aille, si demain, on nous donne les moyens d'ouvrir 30 places la nuit dans le cadre du plan Grand Froid, on le fera. Mais financièrement, on ne saurait pas seul assumer un arrondissement de 250 000 habitants. Voilà, je sors un peu du cadre, mais ça me plaisait de vous répondre par rapport à ça.
Brièvement, moi, personnellement, je partage, j'ai toujours trouvé qu'effectivement, il faut être expert géographe parfois pour comprendre si on a Dison, si on a Verviers, si on a Pepaster, si on a Labo. Il y a une histoire commune, etc. Et certainement, ce que vous dites est vrai. Il n'empêche qu'il y a une différence dans ce que vous dites. Et bon, enfin, on est assez rarement d'accord que pour le souligner, donc je ne sais pas si moi je suis vraiment d'accord sur ce point-là et sur comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Mais il y a une différence entre ça et le fait qu'à un moment donné, on défédéralise tout le temps des compétences sans mettre les financements qui vont avec. Ça ne pointe pas exclusivement l'Arizona, parce que c'était déjà comme ça il y a longtemps. Je dis moi-même, le fait qu'on a déjà posé avec ce conseil-ci des demandes au fédéral, tout simplement que les engagements soient respectés à un moment donné. Et moi, j'ai vraiment un problème de double discours, finalement, avec des discours parfois très musclés sur une certaine présence policière, une certaine vision de la police, et puis derrière, les moyens qui ne sont pas mis. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que je suis d'accord qu'il faut avoir une grande solidarité au niveau des communes, au niveau de la zone, etc. Mais à un moment donné, la pression financière, d'abord, elle est là. Elle ne peut pas être compensée sainement par les communes dans ce cadre-là. Mais donc, venir dire que la zone est aujourd'hui cool, relax. À mon avis, si on vous proposait 20 effectifs supplémentaires, vous sauriez les occuper. Donc, je trouve que là-dessus, moi, il y a un vrai problème, en tout cas, quand on dit ça. Ici, on est dans une séance publique. Publiquement, il y a un bourgmestre qui dit « c'est bon, il y a assez de moyens dans la zone de police ». Je trouve que ce n'est pas acceptable.
Voilà, donc maintenant, je propose de procéder au vote. Donc, on a retenu l'abstention. Unanimité pour tout le monde. Je vous remercie. Je vous propose de prendre notre ordre du jour traditionnel. Modification budgétaire. Vous savez bien que M. Chapelle est un habitué de nos séances. Alors, je ne sais pas si je peux déjà le féliciter ou pas. On ne sait pas encore. Donc, comme vous le saviez, sa compagne attend famille. Et je pense que s'il était ici, il aurait risqué de louper l'événement. Donc, on va lui laisser le bénéfice. Donc, je ne sais pas encore. Comme je l'ai dit, on ne peut pas féliciter avant. Ça porte peut-être malheur, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas le faire. Mais au niveau des modifications budgétaires, peut-être Monsieur le chef de corps, l'un ou l'autre commentaire.
Merci. Donc, au niveau de la modification budgétaire, je suis un spécialiste des finances. Et donc, pardonnez-moi si je suis incorrect dans ce que j'expliquerai éventuellement.
Et voilà. Je recommence. Modification budgétaire. Et donc, la modification budgétaire intègre principalement le résultat du compte de 2024 qui était de 2 106 000, supérieur de 312 000 au boni escompté. Les différents mouvements budgétaires proposés se compensent globalement de la sorte qu'une marge positive de 300 000 euros et quelques centaines d'euros sera remise en provision afin de réduire les interventions communales en 2026. Donc on fait à chaque fois, on met une partie de ce qu'on a du boni en réserve pour permettre de moins impacter le budget et donc la contribution des trois communes pour l'année prochaine. Quels sont les détails de ces mouvements au budget ordinaire? Il y a des arriérés qu'on a dû payer pour les antérieurs, d'une quarantaine de mille. En matière de dépenses de personnel, on a aussi une rebudgété puisque finalement, le temps de recruter, de lancer le recrutement, etc., on sait aujourd'hui, en juin, qu'on n'aura pas ce personnel prévu, qu'on avait prévu en 2024 pour 2025, on ne l'aura pas. C'est le temps qui fait ça. Et donc, sur base de ça, au lieu d'arriver à 188 inspecteurs initialement budgétés, bon, même si le budget était disponible, eh bien, on n'arrivera qu'à 185,3 équivalents de temps plein au lieu de 188. Donc, ça représente une économie. Et donc, il rentre dans les mouvements dont je parlais au niveau du budget ordinaire. En tenant compte des détachés, les dépenses en personnel augmentent chaque année et on arrive avec la modification budgétaire à 26 568 787 euros de dépenses en personnel, ce qui est une différence négative. Donc, on dépensera moins et ce moins est de 156 320 euros. Il y a des dépenses en fonctionnement qui sont adaptées, notamment pour l'achat des tenues GNEP. Donc GNEP, c'est, pour parler simplement, le maintien d'ordre. Et également pour les nouvelles tenues de motards, puisqu'on va arriver au maximum de motards que l'on pense recruter, c'est-à-dire 6. Et il faut changer et acheter du matériel pour eux. Et à ce sujet-là, à partir du moment où l'arrêté royal va bientôt être signé sur le changement de couleur, donc on passe de l'orange bleu au jaune bleu, eh bien, autant anticiper et ne pas acheter du matériel qu'on va devoir remplacer dans un an parce qu'il n'aura pas la bonne couleur. Et donc, l'équipement des motards, ce sera les premiers dans la zone qui seront équipés de l'équipement qu'on appelle Battenburg en attente de cet arrêté royal qui ne devrait pas tarder. Il est dans les cartons du ministre. Les autres dépenses de dette en recettes. Donc en 2007, on prévoit une diminution des détachés out et des compensations des prêts remboursés. Donc on note également que nous ne savons toujours pas acter les subsides NAPAP, donc ce sont les prépensions, les subsides NAPAP, et on ne peut pas encore les encoder puisqu'on attend que la fédérale nous informe sur sa contribution au NAPAP. En budget extraordinaire, on a un mali d'emprunt de 2024 à financer et la mise aux normes de l'accueil de la maison de police de Dizon est prévue, et donc il fallait le prévoir également au budget extraordinaire. En projection quinquennale, ça donne en fait, avec l'utilisation de la provision constituée ici pendant pour cette modification budgétaire, ça donne une projection quinquennale avec une augmentation des dotations communales en 2026 de 7,42% par rapport au budget initial de 2025, relatif notamment au remplacement des agents. Donc il est à prévoir, de manière théorique à ce stade-ci, une augmentation des dotations communales de 7,42%. Et les dotations sont, enfin les projections pardon, sont jointes au document du comptable spécial.
Voilà, donc on excuse encore l'absence de notre comptable spécial, mais je pense que le document était clair et vous l'avez tous reçu sur notre serveur. Donc y a-t-il des questions par rapport à CMB? Pas de souci, est-ce que je peux demander le vote? Unanimité?
Non, c'est contre. Enfin, je l'ai expliqué tout à l'heure dans le point précédent. Je peux le redire si vous voulez, monsieur le président.
J'essaie de faire le lien. J'irai réécouter.
Oui, il n'y a pas de souci.
C'est quoi le lien? C'est la
dot... Ah, non, c'est parce que tout à l'heure, j'ai parlé du financement. Ici, on a le financement des communes qui augmentent, etc. Et donc, par rapport à l'opposition que j'avais déjà sur le budget, MB1, même s'il y a évidemment plein de choses sur lesquelles c'est la logique même des choses, et ça, j'ai pas d'opposition, sur la structure du budget et les modifications qui sont faites à ce niveau-là, c'est le contre qui l'emporte pour nous.
Pour vous?
Ben, pour moi, je suis le seul aujourd'hui. C'est vrai. Je profite pour excuser ma camarade Alexia, qui a un empêchement professionnel.
Pas de souci, pas de souci. Donc, à votre contre, votre pour. Merci. Alors, le point 5 et le point 6, c'est des clôtures de candidature. Peut-être laisser un mot au chef de corps, parce que ça peut être paradoxal, évidemment, par rapport à la situation, mais c'est des emplois un peu particuliers.
Donc, on avait ouvert des emplois. Aujourd'hui, l'inspecteur principal, donc c'est un inspecteur qui a suivi une formation complémentaire pour pouvoir diriger une équipe, par exemple, est une denrée extrêmement rare.
Je sais pourquoi je ne fais pas de la politique. C'est pas appuyé sur le bouton. Donc, je disais, en termes de clôture d'emploi, les inspecteurs principaux, donc ce sont des inspecteurs qui ont fait une formation en plus pour devenir leader et chef d'équipe. C'est une denrée extrêmement rare dans toute la province de Liège, mais dans toute la Belgique. Il est extrêmement difficile d'obtenir, en tout cas de recruter des inspecteurs principaux. Et donc régulièrement, on ouvre des emplois et on les ferme parce qu'on n'a pas de candidats. La dernière fois qu'on a ouvert une candidature pour des inspecteurs principaux, il y avait bien 3 ou 4 candidats, il y en avait 2 valables et finalement, il n'y en a qu'un qui est venu, l'autre ayant décidé de rester dans sa zone pour des raisons tout à fait privées. Donc c'est très difficile. Mais on persévère et on continue à ouvrir les emplois, comme on le verra au point 7. Et le deuxième emploi, donc ça c'était chef d'équipe, le deuxième emploi c'est le contrôle interne. Donc le contrôle interne c'est le contrôle des processus, la gestion des risques, la gestion de l'entreprise et de l'organisation. Et aussi évidemment tout ce qui touche au dysfonctionnement individuel, en ce compris le disciplinaire. Mais là, c'est très difficile, évidemment, d'avoir quelqu'un qui est pointu dans la matière et qui voudrait quitter sa zone pour venir dans la nôtre. Raison pour laquelle on clôture, et vous verrez qu'au point 7, on réouvre également.
Y a-t-il des questions? Claire avec ses explications? Donc, point 5, unanimité, point 6, unanimité. Je vous remercie. Et donc, effectivement, sans transition, ouverture d'emploi au niveau du point 7.
Donc au niveau du point 7, un petit liminaire, une remarque liminaire, c'est que le profil B que vous avez reçu, où il était inscrit secrétaire de direction chef de corps, après discussion avec les syndicats, ils nous ont proposé un intitulé qui correspond mieux au profil dit police, et donc ce sera secrétariat de la direction, secrétariat chef de corps. Ça, c'est le liminaire. En termes de proposition, donc je vous le disais, on réouvre l'inspecteur principal pour le service de contrôle interne. vu un départ notamment et nos besoins en inspecteurs principaux, on ouvre 5 places. Un maître chien a désiré quitter son rôle de maître chien et donc on doit le réouvrir parce que je pense de conseils précédents qu'on est tous d'accord sur le fait qu'un maître chien en ville, ben c'est à la limite plus visible que deux policiers ou que le policier qui est derrière le chien et qu'ils ont une efficacité qui est non seulement de la prévention et de la patrouille, mais on a également deux maîtres chiens sur nos 6 maîtres chiens qui sont des chiens duals, donc qui peuvent détecter la drogue et l'argent. Et donc c'est utile d'avoir une brigade maître chien complète, raison pour laquelle on engage un maître chien pour arriver à nos 6 maîtres chiens. 4 inspecteurs polyvalents, donc là c'est toujours dans la même mouvance, c'est-à-dire qu'on a ouvert des candidats inspecteurs lauréats, donc en candidature externe. La dernière fois vous aviez voté et on a ouvert les candidats et on fait les sélections dans 2 semaines puisqu'on a 19 candidats pour 14 places. Ici ce sont des polyvalents, 4 inspecteurs polyvalents qui se trouvent déjà en zone ou à la police fédérale qui décideraient de venir. L'avantage c'est qu'on les a directement alors que les lauréats dont je vous ai parlé, on ne les a pas, si tout va bien, avant octobre 2026. Et donc, pour essayer de combler le cadre le plus rapidement possible, on ouvre en mobilité, ce qu'on appelle mobilité classique, c'est-à-dire qu'on essaie de voir si dans d'autres zones, des inspecteurs ne sont pas intéressés de venir chez nous. Et enfin, je l'indiquais dans le liminaire, un calogue niveau B, secrétaire de la direction, secrétariat chef de corps, c'est pour pouvoir faire le secrétariat non seulement du chef de corps, ça fait bizarre de dire ça, des chefs de corps, mais faire le secrétariat de tout ce qui est direction opérationnelle, non opérationnelle et autres services qui se trouvent à cet étage-là, et donc d'avoir un secrétariat commun. Voilà les propositions. Merci.
Les différentes propositions sont passées à CBBT, CB, comment est-ce qu'on dit ?
CCB.
CCB.
Ça change. Tous les profils sont passés en CCB.
Donc avec l'accord des syndicats. Unanimité sur ce point ? Je vous remercie. Le point 8. Un motard sans moto, c'est quand même moins efficace. Donc on a des motards, il faudrait qu'on leur achète une moto. Plus sérieusement, donc on a 6 motards pour 5 motos, c'est ça ? Oui, pour 4 motos et on en demande une 5e. Voilà, puisque à 6-5, on arrive évidemment à faire la rotation, mais à 6-4, on arrive moins à la faire. Donc on vous propose d'acquérir une BMW R1300 RT par le marché fédéral pour un montant de 32 000 euros TVA comprise. Un budget évidemment extraordinaire qui est prévu pour ça. Pas de souci. Point suivant, c'est l'achat d'un véhicule d'intervention, donc c'est également par le marché fédéral. Et là, on vous propose d'acquérir un véhicule de type, on verra bien en fonction du marché, VW Tiguan SUV, on en a déjà, équipé du marquage Brandenburg dont on a parlé tout à l'heure, et c'est une dépense estimée à 70 000 euros TVA comprise. Effectivement, je disais, c'est le marché d'Anvers fédéral. J'allais un peu trop vite. Pas de souci. Le poids 10, c'est la même chose. Le deuxième. Le 11, c'est un véhicule polyvalent. Donc là, on est sur une VW, mais Touran cette fois, plus Tiguan. 57 000 euros TVA compris. C'est toujours prévu dans notre budget extraordinaire. Pas de souci. Le point 12, désignation d'un prestataire externe pour développement spécifique ponctuel. Peut-être là, vos commentaires, monsieur le chef de corps.
Merci, monsieur le président. Donc ici, on a la zone de police donc, qui compte 270 personnes, a 2 informaticiens, dont un se trouve là-bas. Et merci d'être là, Benoît. 2 informaticiens. Et on avait dans notre direction des opérations, section des opérations, un policier qui était également... féru d'informatique et qui a développé un certain nombre d'applications. Et c'est tellement féru d'informatique qu'il a été ferré par le CHR pour aller gérer le département informatique là-bas. Donc il n'est plus là, mais il a développé un certain nombre d'applications. Applications qui ont besoin d'être débuggées éventuellement, d'être revues, d'être développées plus en avant. Et nos 2 informaticiens aujourd'hui, s'ils s'attachent à faire ça en plus, bon, on ne va pas s'en sortir, d'une part, et d'autre part, ce sont des programmations et des langages de programmation que nos informaticiens n'ont pas coutume d'utiliser. Ils sont polyvalents, donc ils l'utiliseront bien, mais ils vont prendre beaucoup plus de temps. Et donc, ce qu'on propose, c'est un petit marché de 10 000 euros pour engager une des trois sociétés pour faire ces développements-là ou ces debugs-là de nos applications. Exemple d'application, ce qu'on appelle le car sheet. Donc, quand un policier rentre dans la voiture, il flash le QR code et automatiquement, il a son nom qui est introduit, le véhicule, et il n'y a plus qu'à remplir quelques informations et on peut suivre le véhicule. Lui peut faire ce qu'on appelle le check-in du véhicule, voir si tout est en ordre. S'il y a des choses qui ne sont pas en ordre, elles sont encodées et elles remontent directement à notre service ressources matérielles pour pouvoir faire le suivi du véhicule. Donc, on gagne du temps et on gagne on gagne du temps et on ne perd pas d'informations. Et donc, ça c'est le genre d'application que l'on a développée chez nous. Il y a d'autres applications. Le coordinateur externe qui contacte régulièrement le bourgmestre ou les bourgmestres. Coordinateur externe a également aujourd'hui un livre électronique. Il encode toutes les informations. Et jusqu'il y a quelques mois, c'était sur un papier, sur un carnet. Aujourd'hui, il encode toutes les informations et elles sont accessibles, notamment pour les officiers de permanence, directement sur leur GSM. Donc voilà, ce sont des petites applications qui nous permettent d'être un peu plus efficaces.
Oui, monsieur, merci, monsieur le président, monsieur le chef de corps. Vu les montants estimés, ça veut dire que c'est des toutes petites interventions. Et par rapport au tarif habituel des informaticiens, est-on sûr que ça a été super bien cadré et qu'il n'y aura pas de surprise? Parce que le montant que vous avez donné, c'est peanuts, quoi. Donc c'est juste pour savoir si à un moment donné, on n'aura pas des gros dépassements qui risquent d'arriver. Parce que c'est 10 000 euros pour un informaticien, c'est très vite. Un peu plus de 10 000 euros, c'est très, très, très vite pris. Donc, c'est juste, voilà, juste pour être sûr que le marché était bien circonscrit.
Oui, donc on a bien réfléchi à ce marché. Et cette limite de 10 000 euros nous permet de faire réellement des réparations. Et donc, la société qui va s'engager, c'est qu'elle va réellement faire des réparations. Donc, on va cadrer. Et un des filtres que l'on a mis ou un des blocages, c'est quand on arrivera au-delà de 10 000, on n'ira pas plus loin et on ne va pas demander une plus grande somme. Ce qui est important, c'est surtout le debug et pas le développement de nouvelles applications. Parce que alors, à ce moment-là, c'est autre chose, c'est un autre marché. Merci.
Donc effectivement, ici, c'est vraiment un marché d'accompagnement. Et si on voit que le modèle est limité, puisque notre expert en la matière est parti, on viendra peut-être avec d'autres demandes ou un réengagement ou un truc comme ça. Ici, c'est vraiment pour pallier journalièrement à des petits soucis bugs. OK. Ah, il a gagné. C'était Yvonne, non, normalement il ne courait pas aujourd'hui. Oui, unanimité sur ce point, je vous remercie. Alors j'ai le grand honneur de vous proposer à la désignation à l'Assemblée Générale d'Essetia, puisque nous avons une part chez Essetia dans le cadre des marchés que nous avons passés avec eux, de désigner monsieur le chef de corps comme représentant au sein de l'Assemblée Générale d'Essetia. Merci. Monsieur le chef de corps, on aurait peut-être dû commencer par ça. Nous avons un invité ce soir.
Mais comme c'est à huis clos, la présentation qu'il va faire est à huis clos.
La présentation se fera à huis clos. Ah oui, donc on va d'abord faire les questions. Ok. On vous propose de faire les questions pour ceux qui en ont.
Merci, monsieur le président. Juste peut-être pour savoir un peu où ça en est, il y a trois semaines d'ici, les médias avaient fait écho du projet du ministre Quintin de lancer une réforme de fusion des zones de police. J'ai vu qu'il y avait eu quelques échanges sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire où ça en est? Quelles sont les perspectives? C'est déjà des temporalités qui sont envisagées, juste pour qu'on soit un petit peu au courant ici en interne, plutôt que de découvrir ça dans la Meuse ou dans d'autres journaux, voir un petit peu comment les choses se passent. Est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Merci.
Merci, monsieur le conseiller. Donc, je vais essayer de prendre les éléments d'abord factuels. Donc, effectivement, on a reçu un courrier de la part du ministre nous demandant de réfléchir fortement au rapprochement des zones de police. Il y a la même démarche qui se fait à d'autres niveaux, au niveau de la zone de secours et à d'autres niveaux aussi. Ça, c'est l'élément factuel. Dans le courrier, je pense qu'on abordait l'éventualité de se poser la question de la cohérence entre les zones de police et les zones de secours. On sait que sur notre territoire, on a une particularité au niveau des zones de secours. Déjà, on en a 6 en province de Liège, ce qui est un peu unique en Wallonie. Et puis, il y a des coupages un peu particuliers, puisque nous-mêmes, dans l'arrondissement de Verviers, en termes de zones de secours, on a 3 zones de secours, avec la zone de secours germanophone et 2 zones, la zone 4 et la zone 5, au niveau de l'arrondissement. Et dans la zone 4, on a aussi des communes qui ne font pas partie de notre arrondissement, qui sont dans celle-là. Par les zones de secours ici. Donc on a un découpage un peu particulier donc, qui sur base des zones de police, me paraît être plus compliqué et moins pertinent. Ça, c'est pour vraiment les éléments factuels. On n'a pas d'agenda, on n'a pas vraiment de choses qui sont prévues factuellement par rapport à ça. Je sais qu'il est prévu que le ministre de l'Intérieur vienne au mois de septembre en province de Liège. Je ne sais pas encore s'il sera du côté de Wiwarem de Liège ou de Verviers, mais il y a une rencontre où tous les bourgmestres de la province seront invités pour évoquer cela. Voilà, ça, ce sont les éléments très factuels. Donc, on est au début réellement d'un processus. Et puis, sur l'aspect plus politique, effectivement, on m'a demandé de m'exprimer sur ce que j'en pensais à ce stade-ci. Je précise bien à ce stade-ci. Et moi j'ai dit principalement une chose, c'est l'opérationnalité qui compte, quels que soient les rapprochements que nous ferons. Ce que nous ne voulons pas perdre, c'est l'efficacité sur le terrain, qui est déjà pas évidente par certaines difficultés qu'on a soulevées aujourd'hui durant notre conseil de police. C'est ce sentiment du citoyen de l'absence de police de proximité, ce qui est plus un sentiment qu'une réalité, avec cette phrase qu'on entend tous en tant qu'élus locaux, « je ne connais plus mon agent de quartier ». Ça, c'est quelque chose qu'on entend très, très régulièrement, mais qui n'est pas dans la réalité, du moins dans la réalité que moi j'ai découvert depuis 5 mois maintenant en tant que président de la zone. J'ai encore eu une réunion de concertation avec des citoyens dans mon bureau et l'agent de quartier concerné. Elle connaissait extrêmement bien son sujet. Je dois le reconnaître, même si, on l'a redit tantôt, il y a des problèmes de moyens. Donc moi, le seul garde-fou que je mets sur base de fusion ou de rapprochement, c'est l'opérationnalité sur le terrain. C'est la priorité numéro un, c'est d'être toujours aussi efficace. Et je vais être un peu caricatural. Si demain, les policiers de Verviers, puisqu'on sera de toute manière l'élément central au niveau d'une zone, vu la taille de Verviers, si on doit intervenir à Wem, on sera moins présent évidemment sur le territoire verviétois, pendant la nuit par exemple. Donc voilà, moi c'est plutôt de ma courte expérience, Véronique a une expérience beaucoup plus importante que moi, mais je pense qu'elle a la même approche par rapport à l'efficacité que nous voulons par rapport à nos policiers. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui par exemple, c'est une réflexion que nous menons, mais les plaintes pendant la nuit, mais il n'y a plus que Verviers qui les prend dans l'arrondissement. Donc on a parfois des policiers à nous qui travaillent déjà pour des plaintes qu'on vient déposer en venant d'autres zones de police. Donc c'est du travail, encore une fois, qui est la responsabilité de Verviers par rapport à ça. Donc moi, le garde-fou que je mets aujourd'hui, c'est celui-là. C'est vraiment, OK, si on veut faire une fusion, OK, si on veut faire des rapprochements, mais prouvez-moi qu'on gardera au moins la même efficacité, si pas mieux, puisque si on change les choses, autant que ça aille vers du mieux, certainement pas vers du moins bien. Autre élément que je tiens à souligner, c'est que notre zone est très active et très proactive sur les marchés communs, sur les rapprochements, etc. On a été précurseur sur le véhicule dont je ne me souviens plus le nom, c'est comment ?
GNEP,
qui est un véhicule d'intervention pour les événements à haut risque. Donc c'est un véhicule qui permettra de déplacer les policiers lorsqu'ils doivent aller, par exemple, sur un match du Standard de Liège, par exemple, c'est ça, un match du Standard de Liège à risque. Il faut des véhicules pour permettre aux policiers de venir en renfort. On a acheté un véhicule avec toutes les autres zones, et c'était Verviers qui a été le meneur dans la chose. Donc il y a déjà beaucoup de réflexions qui se font, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, les synergies peuvent apporter beaucoup, être intéressantes. Donc je pense, et c'est notre responsabilité politique, qu'on va être face à une mandature très particulière, que ce soit les zones de secours, que ce soit les zones de police, que ce soit sur les moyens liés aux communes. On va vraiment devoir avoir une réflexion globale par rapport à tout cela. Et comme je dis souvent, il va falloir sans doute dans les années qui viennent, alors M. Chaumbron, tout ça ne sera pas d'accord sur les responsabilités par rapport à ces moyens que nous avons en moins, mais voilà, c'est une réalité dans laquelle on va devoir évoluer. On va devoir faire sans doute mieux avec moins. Ça va être le défi qui est le nôtre. Parce qu'on ne peut pas se contenter, on doit toujours essayer de faire mieux. On doit toujours essayer de faire mieux, on doit toujours essayer d'améliorer notre activité, d'améliorer nos interventions, d'améliorer ce qu'on fait, mais on sait qu'on va avoir des difficultés qui doivent nous pousser à vraiment réfléchir à tous nos process, réfléchir à la manière dont on envisage les choses. C'est la même chose à la zone de secours, c'est la même chose à la zone de police. On doit garantir le service aux citoyens, mais avec des moyens qui vont sans doute évoluer. Voilà, donc je vous propose de passer au huis clos. Donc là, on coupe l'enregistrement.